n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi. Bonjour à toutes et à tous. Au programme de votre émission, rencontre avec une sexothérapeute dans le cadre des 30 ans de l'AVEMA, l'association qui accompagne les personnes victimes de violences intrafamiliales. En deuxième partie, dans le cadre de la commémoration du 8 mai, nous partons sur les pas de la résistance dans le département de l'Ain. Et tout de suite, c'est votre actualité en bref.
Bourque, en bref.
La Nuit européenne des musées, c'est ce samedi 14 mai. Voici une petite sélection de ce que vous pouvez visiter dans l'Ain. Pour les enfants, une journée autour de la lecture au domaine des saveurs Les Planons, avec des histoires contées, une rencontre avec un auteur jeunesse et la visite de la ferme notamment. C'est gratuit. Vous pouvez aussi visiter le château de Tréfort à la lampe torche. C'est sur réservation et sur le site www.chateaudetréfort.fr. Et pour Bourg-en-Bresse, vous pourrez assister à un spectacle dans le troisième cloître du monastère de Broux. C'est gratuit et à partir de 19h. La rue de la République à Bourg-en-Bresse devient piétonne pour les soirs d'été. La mairie de Bourg-en-Bresse veut mettre en avant la rue de la République, toute neuve. Pour cela, elle a décidé de couper la circulation et de laisser la place aux terrasses les soirs d'été, en fin de semaine seulement, les jeudis, vendredis et samedis, de 19h à minuit. C'est à partir du 12 mai et jusqu'à fin septembre, entre la place Quinet et la rue Samaritaine. Une inauguration festive aura lieu le 12 mai à partir de 18h. L'hôpital de Bourg célèbre la fermeture de son dernier service hospitalier à l'Hôtel Dieu. Il va déménager dans les locaux de l'hôpital Fléria à Viria. Les 10, 12 et 13 mai, ce sera l'occasion de découvrir l'histoire de ce lieu avec plusieurs expositions et la visite de l'apothicairie notamment. C'est de 14h à 18h et c'est ouvert à tous.
Bonjour Nicolas Klein, donc je suis directeur adjoint au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et plus particulièrement responsabilité du pôle gériatrie dont fait partie aujourd'hui l'Hôtel Dieu.
Pourquoi vous organisez des festivités ici à l'Hôtel Dieu ?
L'Hôtel Dieu est un bâtiment historique hein, de la vie burgienne et notamment côté hôpital. Et il était important pour nous, puisque nous allons définitivement fermer ce bâtiment à l'activité hospitalière la semaine du 8 juin, de pouvoir organiser les choses à la fois pour les résidents qui sont encore accueillis aujourd'hui et leurs familles, pour que les professionnels puissent franchir ce cap, et également pour ouvrir ce bâtiment au public et aux citoyens qui nous entourent et qui, pour certains, le connaissent et pour d'autres, aimeraient peut-être le découvrir.
Les raisons pratiques de cette fermeture des services du centre hospitalier ici, c'est quoi ?
Alors, elles sont de plusieurs ordres. Les premières sont que nous allons intégrer un bâtiment beaucoup plus moderne et beaucoup plus adapté à l'accompagnement des personnes âgées au titre de la mission de soins de suite et longue durée. Le deuxième est un argument qui va dans ce sens-là également, avec le rapprochement de ces services sur Fléria, d'autres services qui sont aujourd'hui nécessaires à l'accompagnement et aux soins de ces personnes âgées. On peut penser à l'imagerie, on peut penser à un certain nombre aux analyses biologiques, etc. Donc ça facilitera aussi le parcours du patient. Et puis le troisième sujet, c'est au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire que quand on est sur un seul site, on peut quand même beaucoup plus facilement organiser, si ce n'est des mutualisations, mais en tout cas éviter par exemple à des médecins de devoir se déplacer d'un site à un autre. Donc on gagne du temps.
L'invité de Radio B.
Dans le cadre des 30 ans de l'AVEMA, une association de soutien aux victimes de violences intrafamiliales, une journée pour les professionnels était organisée fin avril. La table ronde avait pour thème « Sexualité et accompagnement des auteurs et victimes ». Pour en parler, le directeur de l'AVEMA est une sexothérapeute. On écoute leur réaction à la fin des échanges.
Donc Jean-Pascal Thomasset, je suis le directeur général de l'AVEMA, qui est un service d'aide aux victimes et d'accompagnement aussi de mise en cause et des auteurs. Donc nous travaillons sur les deux dualités, victimes et auteurs.
Expliquez-nous en fait le but de cette soirée que vous avez organisée ce soir.
Alors ce sont des soirées qu'on organise dans le cadre des 30 ans de l'association et de l'AVEMA qui sont en fait des soirées d'échange, des soirées de débat sur des thématiques d'actualité que nous avons choisies et définies tout au long de l'année. Et cette année, nous, aujourd'hui, ce soir, nous souhaitions aborder le terme de la sexualité au travers de l'accompagnement des victimes et de l'accompagnement des mises en cause, qui est un sujet dont on parle peu, qu'on connaît malheureusement par rapport aux déficiences, par rapport aux interdictions, par rapport aux sanctions, mais qu'on connaît mal sur l'accompagnement. C'est un petit peu le but de cette soirée, d'avoir un enrichissement mutuel entre les partenaires, entre les interventions autour de la thématique de la sexualité.
Donc des interventions ouvertes principalement, exclusivement à des professionnels.
C'est ça, des professionnels du droit, des professionnels du soin, des professionnels de la santé et de la sécurité, parce que tous ces services-là sont traversés par cette problématique d'accompagnement sexuel ou de problématiques de sexualité défaillante ou déficiente. Et il est important qu'on entende, au travers d'une sexothérapeute, qu'on entende la parole d'une professionnelle, la parole de quelqu'un qui a abordé, qui s'est formé à la problématique des relations sexuelles, des comportements sexuels. C'est important qu'on ait aujourd'hui cet apport, ce regard et ces constats.
Qu'est-ce que vous avez appris après ces échanges ?
Alors j'ai appris effectivement que c'est un métier. C'est un nouveau métier qu'on voit émerger, le métier de sexologue ou sexothérapeute, qui est vraiment un métier centré sur la problématique sexuelle, de la relation sexuelle, de l'amour, du désir, du fantasme, et avec des professionnels du soin qui vont aussi accompagner à un moment donné des couples en difficulté, des hommes ou des femmes en difficulté, au travers de cette spécificité de l'accompagnement sexuel, ce qui est nouveau un petit peu pour nous. Nous avons un accompagnement à l'AVEMA qui est un accompagnement généraliste sur la problématique de comportement un petit peu général. Là, on devient sur quelque chose de plus analytique, de plus intimiste sur les problèmes de la sexualité. On avait une vraie professionnelle avec nous. Donc c'est un beau débat en tous les cas, c'est un bel échange.
Juste pour terminer autour de la sexualité, vous avez parlé aussi de l'émergence de nouveaux phénomènes liés au numérique. Vous pouvez en parler ?
Oui, le nouveau phénomène qui a un nom, qui s'appelle la sextorsion, qui sont des victimes que nous rencontrons de plus en plus dans nos services, qui sont des victimes abusées, des victimes de viol, sur des ordres, des commandes un petit peu d'auteurs dissimulées derrière des écrans, dissimulées derrière des téléphones portables, sans contact physique, et on va avoir des jeunes filles obligées de se masturber, obligées de se faire subir des attouchements sexuels, de se visionner, de se filmer sur une simple commande d'un homme dissimulé derrière un téléphone. Et ces nouvelles formes d'agression sont très difficiles à travailler parce que l'infraction d'abord est dure à caractériser. Le mis en cause est très souvent caché derrière un téléphone, derrière un anonymat. Et puis la victime va subir des actes qu'elle n'a pas souhaité, qu'elle n'a pas voulu, qui sont un peu contraires à ce qu'elle imaginait un petit peu de sa vie sexuelle. Et ces nouvelles formes d'agression aujourd'hui peuvent avoir une résonance judiciaire, peuvent avoir une résonance pénale. Et nous accompagnons aussi ces victimes aujourd'hui face à cette nouvelle forme de criminologie.
Juste un point, on a parlé donc de différentes choses qui peuvent exister, notamment aussi de la justice restaurative. On parlait aussi de l'accompagnement par un sexothérapeute. On parle beaucoup de moyens financiers. Et donc que toutes ces choses ne peuvent pas se mettre en place, il n'y a pas de ces moyens financiers. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ces moyens ?
Aujourd'hui, il faut appeler à l'aide nos parlementaires, il faut appeler à l'aide notre ministère. Je vous donne juste l'exemple. Aujourd'hui, dans le département de l'Ain, on n'a plus de psychiatres, on n'a plus de pédopsychiatres. On en a peut-être un ou deux. Et aujourd'hui, tous les accompagnements psychiatriques dont on aurait besoin, eh bien aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Donc le monde judiciaire a besoin de magistrats, a besoin de fonctionnaires, a besoin d'experts. Le monde médical, le monde de la santé a besoin, bien évidemment, de tout ce qui touche l'accompagnement aux soins. Et puis nos services d'aide aux victimes, comme les services pénitentiaires, comme le SPIP, a besoin aussi de moyens supplémentaires si on veut mener à bien ces nouvelles missions, dont notamment la justice restaurative, qui fonctionne quasiment avec quelques centaines d'euros sur le département de l'Ain pour mener à bien ces actions.
Alors je suis Lauriane Sidzik, je suis sexothérapeute à Perona, et donc j'accompagne les individuels et les couples à un meilleur ajustement affectif et sexuel, et plus de joie et de créativité sous la couette.
Et qu'est-ce que notre sexualité peut nous apprendre sur des actes qu'on peut commettre plus tard, en étant adulte, par exemple ?
En fait, je crois qu'il faut aller se découvrir soi-même. Il faut découvrir sa propre sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, elle n'est pas seulement physiologique. Ce n'est pas une excitation des zones du corps, des zones érogènes, et plaisir, et explosion. C'est aller découvrir cet imaginaire érotique. Qu'est-ce qui nous excite ? Quels sont nos moteurs d'excitation ? Et comment on peut les intégrer ? Comment on peut les accueillir pour jouer avec ? et avoir quelque chose de plus ludique, avec moins d'enjeux. Moi, je dis souvent, s'il y a du jeu, là où il y a du jeu, on lève les enjeux. Et donc, on arrive à avoir une sexualité plus libérée, plus variée, plus diversifiée, sans faire des choses absolument extraordinaires et hyper transgressives, comme on parlait tout à l'heure.
Vous le disiez, donc, par votre métier, donc sexothérapeute, vous pouviez donc être une possibilité pour accompagner ces personnes, ces victimes ou ces auteurs, mais vous ne pouviez pas tout faire.
Non, je ne peux pas d'avoir un suivi, ce qu'on appelle multimodal, permet d'ouvrir plus largement et d'aller voir en fonction de ce que la personne amène, de l'accompagner, je disais, en kinésiologie, en constellation familiale, en image de soi, en massage, en somatothérapie. Et tout ça fait que la victime, elle va être touchée dans son image d'elle-même, elle va être touchée dans sa confiance en elle. Souvent, ce sont aussi des personnes qui sont en dépendance affective. Donc c'est travailler sur ces différents domaines. Et ensuite, la sexothérapie vient créer quelque chose de nouveau pour que la personne retrouve la dignité et l'envie d'être dans la sexualité, dans un lien sécure avec l'autre.
Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée de débat avec différents professionnels ?
Cette soirée débat, elle pointe le manque de moyens pour justement permettre tout ce suivi multimodal, et notamment ce suivi, on parlait des auteurs qui sont juste emprisonnés.
Vous parlez de moyens financiers.
Moyens financiers, c'est ça. Ils sont juste emprisonnés et ensuite libérés. Alors ok, ils ont purgé 20, 30 ans de peine, mais ils ressortent comme ils sont rentrés quelquefois. Il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'accompagnement à leurs actes et à ce qu'ils pourraient devenir. Donc en fait, c'est le manque d'accompagnement pendant l'incarcération de l'auteur. Et puis la victime, il y a des structures comme la VEMA ou d'autres qui existent et qui permettent un suivi plus intéressant et qui leur permettent de retrouver une dignité dans la sexualité.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
Tous les 8 mai, la France commémore la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était le 8 mai 1945. Après plus de 5 années d'une guerre sur notre continent, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Le 2 mai 1945, 3 jours après le suicide d'Adolf Hitler, les troupes nazies capitulent. La fin des combats est ensuite fixée au 8 mai. Dans l'Ain, la résistance était active pour lutter contre l'occupation allemande. Nous partons à Nantua, au musée de la résistance et de la déportation de l'Ain, pour en apprendre plus.
Bonjour, Séverine Champenois, médiatrice culturelle au musée de la résistance et de la déportation de l'Ain. Le département de l'Ain fait partie des 13 départements qui vont être traversés par la ligne de démarcation. Donc, à l'été 40, l'Ain se retrouve coupé en deux, avec une partie occupée, enfin situé dans l'une des zones d'occupation allemande, et le reste du département, lui, qui est en zone non occupée. Alors la ligne passe à Bellegarde-sur-Valserine, ce qui est aujourd'hui Valserone. Donc en fait, c'est tout le pays de Gex qui va se retrouver intégré à ce qu'on appelle à l'époque la zone réservée, zone interdite, donc, qui est sous autorité allemande. Alors que le reste de l'Ain, lui, va rester dans la zone non occupée, sous direction du gouvernement français. Une des autres caractéristiques de ce territoire, c'est le développement d'une importante activité résistante, notamment sous la forme de maquis. À partir du printemps 1943, on va avoir donc des groupes qui vont se développer dans toute la partie orientale du département, dans la zone montagneuse, hein, en fait. Et donc, ces maquis vont être très actifs. Alors, le revers de la médaille, c'est que du coup, il y aura aussi d'importantes représailles sur les résistants, mais aussi sur les populations civiles de la part des autorités allemandes.
Et la résistance, comment elle s'est organisée dans l'Ain ?
Les premières activités vont plutôt être ce qu'on appelle de la résistance civile, c'est-à-dire que, notamment, on va développer une propagande résistante pour contrer la propagande officielle du gouvernement de Pétain ou des Allemands, pour essayer justement d'éveiller les consciences, de faire comprendre qu'il faut s'engager dans la lutte. Donc ça va être une part importante de l'activité. Cette propagande, elle va être diffusée sous forme de tracts ou de journaux clandestins. Alors évidemment, il faut faire très attention, hein, parce que tout cela est bien sûr interdit, donc c'est très risqué. Vous avez aussi des activités dans le domaine de l'aide aux personnes pourchassées qui vont se développer. Par exemple, on va fabriquer des faux papiers pour des personnes qui sont recherchées, leur trouver des abris, leur trouver à manger, enfin, etc., ce genre de choses. Et ce n'est pas les personnes recherchées qui manquent, hein, vu effectivement le contexte. Et puis également, vous avez une activité très importante qui est celle du renseignement. Puisqu'effectivement, un certain nombre de personnes vont se dire que pour agir, il faut se mettre au service des Alliés, et notamment des Anglais. Donc vous avez un certain nombre de personnes de l'Ain qui vont entrer en contact avec les services secrets britanniques, qui vont être recrutés en tant qu'agents de ces services secrets, et qui vont donc agir au service de ces services britanniques. Et puis par la suite, les choses vont évoluer. Vous avez notamment deux points de bascule importants qui vont être donc le 11 novembre 1942, donc c'est le jour où les Allemands décident d'envahir l'ensemble du territoire. Donc là, il n'y a plus de zone non occupée, tout est occupé. Donc tout le monde va être confronté à la réalité de l'occupation à partir de ce moment-là. Et ça, pour certains, ça va être le déclic. Et puis, vous avez également, à partir de février 1943, la mise en place de la loi sur le service du travail obligatoire, ce qu'on appelle le STO, qui va donc obliger tous les jeunes garçons qui ont à peu près 20 ans à partir travailler en Allemagne. Et là aussi, ça va être un point de bascule, notamment pour les zones rurales, parce que si jusque-là, elles se sentaient un petit peu éloigné des réalités de l'occupation, là on vient prendre directement le fils de la ferme pour l'envoyer travailler en Allemagne. Donc ça devient très concret. Et donc pour certains, là aussi c'est ce qui va déclencher l'envie de s'engager dans la résistance. Et puis après, donc par la suite, à partir du printemps 43, on va voir se développer les maquis. Donc ces groupes de résistants destinés à la lutte armée qui vont s'installer dans les forêts, dans les montagnes du Bugey, du Haut-Bugey, etc. Et qui vont petit à petit mettre en place toute une série d'actions pour gêner l'occupant. C'est une lutte faite d'embuscades, de sabotages, de replis, de coups de main qui prend forme à partir de ce moment-là. Alors nous nous trouvons dans la salle de reconstitution du camp de maquis. C'est une salle qui a été créée par les fondateurs du musée au début des années 90 pour montrer dans quel environnement évoluaient les maquisards. Donc ils ont créé un décor peint sur les murs qui représente la forêt, la montagne. Ils ont également reconstitué une cabane telle celle qu'ils avaient pu se construire dans les forêts du Bugey pour s'abriter. Et puis, on a également des mannequins et des scènes de vie du camp de maquis qui sont représentées avec, par exemple, sur le mur, donc cette peinture qui représente la levée des couleurs. On a aussi, sous une toile de parachute, une scène qui montre un mannequin, donc qui représente le maquisard, qui est en train de s'entraîner à monter et à démonter son arme. On trouve également dans cette pièce des containers. Il s'agit donc de containers qui ont été parachutés par des avions alliés pour envoyer du matériel aux maquisards.
Et donc c'était que les hommes dans les maquis?
Alors dans les maquis, on trouve essentiellement des hommes. Les femmes, souvent, en tout cas celles qui sont engagées, vont jouer deux types de rôles. Soit elles vont plutôt être sur l'arrière pour assurer le ravitaillement, parce qu'évidemment, ces groupes dans les forêts, il faut bien les nourrir. Donc parfois, ils se rendent dans les fermes alentours pour aller essayer de s'approvisionner. Donc les femmes vont jouer un rôle à ce moment-là. Mais on trouve aussi des femmes dans le rôle d'agents de liaison. C'est-à-dire, ce sont des résistantes qui sont chargées de transmettre des messages d'un groupe à l'autre, parce qu'évidemment, on ne peut pas utiliser le téléphone qui est surveillé, le courrier aussi. Donc, pour transmettre les ordres ou les informations, bien souvent, on va utiliser cette technique des agents de liaison qui vont parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres à pied, à bicyclette, bien souvent, à travers tout le département, pour transmettre les consignes. Et c'est vrai que souvent, on va utiliser des jeunes filles pour ce type de mission, parce qu'en fait, elles attirent moins l'attention que les jeunes garçons lors des contrôles.
Et c'est quand ils duraient combien de temps, en fait ?
Alors, ce sont des camps qui sont mobiles, parce qu'évidemment, c'est très risqué. Et dès que le danger se rapproche, on va déplacer le camp vers un autre lieu pour éviter toute confrontation avec l'ennemi.
Est-ce qu'il y a des moments clés, des dates clés d'actes de résistance où il y a vraiment une confrontation avec les Allemands ?
Alors, pour le département de l'Ain, c'est vrai qu'il y a quand même une date essentielle, c'est celle du 11 novembre 1943. Cela correspond en fait à l'organisation d'un défilé des maquisards dans les rues d'Oyonnax, en plein midi. Alors, il faut rappeler que depuis le début de l'occupation, donc depuis 40, toutes les commémorations liées à 1918, liées au 11 novembre, eh bien, sont interdites, puisqu'évidemment, pour les Allemands, c'est un jour de défaite. Donc, tout cela a été supprimé. Mais du coup, c'est d'autant plus un jour important pour les résistants qu'il renvoie symboliquement à une victoire contre les Allemands. Et donc, ce 11 novembre 1943, le chef des maquis de l'Ain, qui s'appelle donc Roman, Henri Petit de son vrai nom, a décidé d'organiser une sorte de coup d'éclat pour attirer l'attention sur ses hommes, au sens où il espère convaincre les alliés d'équiper ces maquisards, qui sont quand même assez dépourvus de matériel. Enfin, ils n'ont pas de chaussures adaptées, pas de vêtements adaptés à la vie en montagne, pas d'armes, bien sûr. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des alliés, mais c'est aussi de convaincre la population que ces maquisards ne sont pas les dangereux bandits ou criminels qui sont décrits dans la propagande officielle.
Et ça, c'est fini comment ?
Alors, compliqué comme question, parce que, alors, ce qu'il faut dire, c'est que le défilé avait été très bien préparé. Hein, vraiment, ils avaient bien préparé leur coup. Ils bénéficient de complicité au sein même des autorités. Par exemple, le commissaire de police d'Oyonnax et de Metz. Il participe même à la préparation du défilé. Ce qui fait que le jour venu, eh bien, il va faire en sorte que ces hommes n'interviennent pas trop vite pour sur le défilé. D'ailleurs, ils n'auront pas le temps, puisque, pour être clair, hein, ça va durer à peine 20 minutes, hein, le défilé. Donc, c'est vraiment très rapide. Donc, la police n'aura pas le temps d'intervenir. Et effectivement, ce jour-là, il n'y aura pas d'arrestation. Aucune personne ne sera arrêtée. En revanche, on se doute bien que les Allemands n'ont pas dû vraiment apprécier de s'être fait avoir, en quelque sorte. Et il va y avoir, un mois plus tard, un événement assez terrible, puisque le 14 décembre 1943, à Nantua, il va y avoir une rafle où 150 hommes de 18 à 40 ans vont être arrêtés et la plupart seront déportés. Alors, il faut préciser que officiellement, lors de cette rafle du 14 décembre 1943, les Allemands expliquent que si cette rafle a lieu, c'est parce que un peu avant, le 6 décembre 1943, il y a eu une opération punitive menée contre des soi-disant collaborateurs qui ont été peinturlurés de croix gammées, déshabillés, traînés dans les rues par des maquisards. Et donc, les Allemands, ce 14 décembre, font placarder dans Nantua une affiche qui dit que cette rafle est la conséquence de cette opération punitive du 6 décembre 1943. À aucun moment, il n'est fait référence au défilé. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, nous n'avons trouvé aucune archive qui permette de relier les deux événements. Néanmoins, si on prend un petit peu le recul de l'historien, on va dire, on se rend bien compte que voilà, la coïncidence est quand même flagrante et laisse à penser que cette rafle est l'une des conséquences de ce défilé du 11 novembre.
Et pour les Journées du patrimoine, le musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua sera ouvert gratuitement. Vous pourrez assister à la projection d'un documentaire sur deux anciens élèves du lycée Lalande de Bourg-en-Bresse. Ils ont participé à la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 18h. Et en attendant, belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.